Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du jeudi 9 septembre 2021. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations. En attendant la visite de la mission de la CEDEAO, la junte au pouvoir en Guinée fait le grand ménage. Au Maroc, les islamistes au pouvoir depuis 10 ans ont essuyé un réveil historique aux dernières élections législatives. Afghanistan, un premier vol d'évacuation a été effectué aujourd'hui de Kaboul vers Doha, le premier vers l'étranger depuis le retrait américain. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden va annoncer ce soir un nouveau plan de lutte contre le Covid-19. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et les sports, mais tout d'abord le journal. En Guinée, 2 militaires sont radiés de l'armée pour pillage par le colonel Mamadi Doumbouya. Une rencontre est prévue demain vendredi avec les responsables des départements pour la présentation des bilans. La CEDEAO, qui a suspendu la Guinée de ses organes, doit dépêcher une mission pour évaluer la situation. Zakaria Kambara, notre correspondant à Conakry, fait le point.
La junte continue de dérouler son programme. Tous les responsables des départements ministériels sont convoqués pour un entretien ce vendredi avec le Conseil national pour le rassemblement et le développement. Au cours de cette rencontre, les secrétaires généraux devront présenter un bilan écrit des ministères. Dans un autre communiqué lu à la télévision nationale, le colonel Mamadi Doumbouya annonce le remplacement des commandants des escadrons mobiles, des compagnies mobiles d'intervention par leurs adjoints. Et puis, première sanction des nouvelles autorités de Conakry, 2 soldats ont été radiés de l'armée guinéenne. Ils sont accusés d'actes de vandalisme et de pillage des biens des populations. Une mission de la CEDEAO est attendue ce vendredi à Conakry pour évaluer la situation. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry.
17 films seront en compétition pour le Grand Prix du FESPACO, le plus grand rendez-vous du cinéma africain, qui se déroulera du 16 au 23 octobre à Ouagadougou au Burkina Faso. Initialement prévu du 27 au 6 mars, l'édition 2021 a été repoussée en octobre en raison de la pandémie de coronavirus. Dans un pays miné par les attaques djihadistes, le gouvernement burkinabé a assuré qu'un effort sera particulièrement consenti pour assurer la sécurité de la manifestation dans la capitale burkinabé. En Côte d'Ivoire, un père de famille a été inculpé pour le viol de ses enfants de bas âge auxquels il faisait consommer de l'ecstasy, a annoncé aujourd'hui la justice ivoirienne. Son frère a également été inculpé pour administration d'une substance nuisible à la santé et viol, affirme le procureur d'Abidjan, Richard Adou, dans un communiqué. Le président Muhammadu Buhari s'est rendu ce jeudi dans le sud-est du Nigeria, région en proie à des tensions séparatistes, où les attaques contre la police se multiplient 2 mois après l'arrestation du leader pro-Biafra, Nnamdi Kanu. M. Buhari s'est rendu à Owerri, la capitale de l'État d'Imo, quadrillé par un important dispositif sécuritaire pour inspecter les récents projets de construction avec le gouverneur local. Avant sa visite, l'AIPOB avait appelé les gens à rester chez eux et les entreprises à fermer en signe de protestation ce jeudi. Au Cameroun, un collectif d'avocats a renoncé aujourd'hui à défendre 100 de militants du parti du principal opposant, Maurice Kamto, écroué depuis près d'un an, et dénoncé l'arbitraire et l'illégalité de leur détention. Les hommes de loi invoquent également l'impossible accès à une justice équitable rendue par un tribunal impartial et indépendant. Pour leur part, les 124 opposants qui estiment être des otages politiques du président Paul Biya ont annoncé dans une déclaration commune avoir eux aussi décidé de ne plus se soumettre à une parodie de jugement. Ces militants sont retenus en prison après avoir participé à des marches pour réclamer le départ du président Paul Biya, 88 ans et au pouvoir sans partage depuis près de 39 ans. Au Maroc, le chef du Rassemblement national des indépendants, Aziz Akanouche, a salué aujourd'hui la volonté populaire du changement, satisfaction exprimée au lendemain de la victoire de son parti aux législatives et la cuisante défaite des islamistes au pouvoir depuis une décennie. Le point avec Eric Manirakiza.
C'est une victoire pour la démocratie et une expression explicite de la volonté populaire pour le changement, a affirmé Aziz Akanouche, un homme d'affaires décrit comme proche du palais royal. Le Rassemblement national des indépendants, son parti, a remporté les législatives avec 97 élus devant le parti Authenticité et Modernité et le parti de l'Istiklal qui ont obtenu respectivement 82 et 78 sièges sur les 395 de la future Assemblée nationale. Le parti de la justice et du développement qui était au pouvoir depuis 10 ans s'est effondré, passant de 125 sièges à 12. Le président du parti vainqueur, le RNI, est favori pour succéder à la tête du gouvernement à Saad Eddine El Othmani, secrétaire général du parti islamiste modéré. Il revient au roi Mohamed VI de choisir le chef du gouvernement au sein du parti arrivé en tête des législatives et qui sera chargé de former un exécutif pour un mandat de 5 ans.
La crise entre le président somalien et son premier ministre a franchi un cap supplémentaire ce jeudi. Le premier ministre Mohamed Roble a annoncé hier le limogeage du ministre de la Sécurité, Hassan Houndébi Djimalé, et l'a remplacé par Abdoulaye Mohamed Nour, un critique du président Mohamed Abdoulaye Mohamed dit Farmajo. Cette décision a été rejetée par le chef de l'État ce jeudi. Il s'agit de la deuxième confrontation entre les deux hommes au sujet de limogeage et nomination au sein de l'appareil sécuritaire. L'autorité sanitaire de l'Union africaine s'en est pris aujourd'hui aux dirigeants mondiaux qui n'ont pas honoré leur promesse de partager les vaccins contre le COVID-19 avec les populations les plus pauvres au moment où l'Afrique fait face à une résurgence de la pandémie. Le directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, Africa CDC, John Nkengasong, a dénoncé une diplomatie des vaccins selon laquelle les gens tiennent des discours qui ne sont pas reflétés par la réalité.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Quelques 200 ressortissants étrangers, parmi lesquels des Américains, ont été évacués ce jeudi par avion de Kaboul vers le Qatar. Plusieurs manifestations ont par ailleurs été annulées aujourd'hui à Kaboul après avoir été interdites par le nouveau gouvernement des talibans. Les précisions de John Lindon.
Un avion a évacué quelques 200 personnes, dont des Américains de Kaboul à Doha au Qatar. C'est le premier de ce type depuis le gigantesque pont aérien organisé par les Américains qui a permis l'évacuation de plus de 120 000 personnes après le retour soudain des talibans au pouvoir. Après les formalités des départs, les passagers ont embarqué dans des bus sur le tarmac de l'aéroport sous la surveillance des gardes du Qatar, très impliqués dans cette opération. Les bus transportant une trentaine de passagers chacun les ont ensuite déposés au pied de l'avion de Qatar Airways, où ils sont montés avant de décoller peu après. Selon un responsable américain qui a requis l'anonymat, deux très hauts responsables talibans ont contribué à faciliter ces départs. Par ailleurs, mercredi soir, le nouveau gouvernement taliban a publié un ordre stipulant que tout rassemblement devrait être autorisé au préalable par le ministère de la Justice. Plusieurs rassemblements de centaines de personnes ont été dispersés par des talibans ces derniers jours à Kaboul. Lors de ces manifestations, les talibans ont frappé ou arrêté des dizaines de personnes.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden va dévoiler ce soir une nouvelle stratégie pour tenter de reprendre le contrôle de la pandémie de COVID-19. Les détails avec Rosine Munezero.
Selon la Maison-Blanche, il va exposer un plan en 6 volets. L'attaché de presse du président Biden, Jen Psaki, a déclaré jeudi à CNN que ce plan comprend la vaccination d'un plus grand nombre de personnes qui ne sont pas vaccinées et qu'il n'y aura pas de projet de passeport vaccinal national. Un responsable de la Maison-Blanche qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat a déclaré que la stratégie impliquera les secteurs publics et privés. Selon lui, le président l'a dit depuis son premier jour au pouvoir, qu'il va utiliser tous les leviers pour maîtriser la pandémie. Joe Biden et ses partisans qualifient la poussée actuelle de pandémie des non-vaccinés. L'émergence du variant Delta a fait remonter les cas et les hôpitaux de certains États sont à nouveau débordés. Les premiers succès de l'administration dans le déploiement des vaccins et la promotion du port du masque ont donné au président Biden une impulsion après sa prise de fonction. Cependant, les gouvernements des États républicains du Texas et de la Floride ont activement résisté au port obligatoire du masque et leur population refuse de se faire vacciner, même si les nouveaux cas explosent autour d'eux.
En France, Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos ayant frappé la France le 13 novembre 2015, a de nouveau intempestivement pris la parole pour dédouaner trois de ses co-accusés au début du deuxième jour du procès à Paris de ces attentats. Ils m'ont rendu des services alors qu'ils ne savaient rien du tout au sujet d'éventuelles responsabilités dans les attentats du 13 novembre, acclamé Salah Abdeslam, citant trois de ses proches à Bruxelles qui l'ont aidé lors de sa cavale après les attentats du 13 novembre. Voilà pour le journal, vous écoutez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Rosine Monizero.
La Banque africaine de développement prévoit de déployer un programme pour renforcer l'accès aux ressources en eau dans 5 pays africains, notamment le Burkina Faso, l'Éthiopie, le Mali, le Niger et la Somalie. Cette initiative va améliorer la durabilité des systèmes d'approvisionnement en eau grâce à la construction ou la réhabilitation des infrastructures déjà existantes. Le géant russe du diamant Alrosa annonce la conclusion d'un protocole d'accord avec la société minière du Bakwanga, un des principaux producteurs de diamants en RDC. Cet accord permettra à Alrosa de participer à l'exploration puis à la production de diamants en RDC dans le respect des normes d'approvisionnement en la matière. Alrosa a également acquis des projets d'exploration au Zimbabwe. Au Bénin, le gouvernement va donner le départ de la campagne de commercialisation des amandes de karité le 16 septembre. Cette nouvelle saison, qui sera lancée dans la commune de Niki, dans le nord-est du pays, verra un prix plancher d'achat aux producteurs de 100 francs CFA par kilo. Le karité fournit environ 5% des recettes d'exportation agricole du Bénin et représente la troisième source de devises derrière le coton et l'anacarde.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir à tous. Le coup d'État en Guinée a des répercussions sportives sur les clubs guinéens engagés dans le tour préliminaire des Coupes africaines. La CAF a décidé que les trois rencontres impliquant des clubs guinéens dans les phases préliminaires se joueraient en un seul match sur le terrain de l'adversaire. En conséquence, pour ce qui est de la Ligue des champions, le CI Kamsar fera face aux Ghanéens d'Atofok à Accra le 19 septembre en Coupe CAF. Wakria jouera sa qualification en un seul match face à Djambar au stade Lat Dior de Thiès au Sénégal ce dimanche 12 septembre. Pareil pour Anglo Gold qui fera face au Nigérien de Bayelsa United FC à Yenugua le 19 septembre. En Égypte, Carlos Queiroz est le nouveau sélectionneur des Pharaons. Il succède à Oussama Badri, limogé lundi par la Fédération égyptienne de football au lendemain d'un nul laborieux face au Gabon 1-1 en qualification pour le Mondial 2022. Badri, 61 ans, avait succédé en septembre 2019 au Mexicain Javier Aguirre. Carlos Queiroz est attendu au Caire au début de la semaine prochaine. Prenons à présent la direction du Lesotho dans ce pays du sud de l'Afrique. Nous allons explorer l'histoire inspirante d'une jeune fille dans un village. Elle s'appelle Hotalank Leuta. Elle a appris par elle-même à faire du vélo pour devenir plus rapide que les garçons de son village, Roma et de tout le Lesotho. Maintenant, contre toute attente, elle est prête à affronter le monde au championnat du monde Red Bull ICI Pump Track 2021 au Portugal en octobre prochain. Bagasikura.
Hotalank Leuta slalom sur une piste de pompe track dans sa ville natale, Roma, à 34 km de Maseru, la capitale du Lesotho, un royaume de haute altitude encerclé par l'Afrique du Sud. Ici, il n'est pas typique de voir des femmes faire du vélo, mais depuis qu'une piste de pompe track a été construite en 2017 à Roma, Leuta est fascinée et profite pleinement de sa passion.
Oh yeah, I loved riding the moment.
J'adore rouler. C'est pourquoi je me dis que je n'arrêterai jamais de faire du vélo parce que je peaufine mon talent et personne ne m'a dit comment le faire.
No one taught me how to do it.
Leuta, qui s'appelle affectueusement la mère de la piste de pompe track, a appris elle-même à monter dans le tas. Elle n'avait pas de vélo et devait marcher jusqu'à la piste et emprunter des vélos du club pour s'entraîner. Aujourd'hui, elle profite de l'équipement moderne mis à sa disposition et encourage d'autres enfants qui viennent faire du vélo et veulent lui ressembler.
I always want to inspire youngsters.
Je veux toujours inspirer les jeunes. Alors je suis juste heureuse qu'elle m'aime et me soutienne.
En 2019, Leuta a remporté la course nationale pump track du Lesotho. Ce résultat lui permet d'être la représentante de son pays au prochain championnat du monde Red Bull UCI pump track prévu à Lisbonne au Portugal du 15 au 17 octobre prochain.
Merci Bagassi.
Page de sport signée Yakuba Ouedraogo. Vous êtes à l'écho du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a suspendu hier la Guinée de ses instances suite au coup d'État militaire de dimanche dernier. Les putschistes dirigés par le colonel Mamadi Doumbouya ont dit avoir fait ce coup d'État pour mettre fin aux dérives du régime d'Alpha Condé. Joint à Conakry par Yakuba Ouedraogo, Sheikou Barry, président de l'Association des anciens étudiants guinéens de l'Amérique du Nord, estime que cette sanction de la CDAO n'est pas une surprise.
Nous ne sommes pas vraiment surpris dans la mesure où ils sont conformes au texte de la CDAO. Cela dit, les sanctions n'ont pas été aussi lourdes par rapport aux premières sanctions si on prend en comparaison avec le Mali dernièrement. Cela reste salutaire. Donc nous allons, nous, de notre côté ici, encourager les nouvelles autorités à produire un chronogramme rapide de sortie de crise pour que les sanctions ne soient pas plus sévères, qu'il n'y ait pas de sanctions économiques, de fermeture de frontières ou encore de fermeture de l'accès maritime, étant donné qu'aujourd'hui, la CDAO a quand même les moyens d'imposer une des sanctions pareilles.
Selon vous, pourquoi la CDAO a été moins sévère à l'égard de la Guinée?
Le cas de figure de la Guinée et celui de Mali sont un peu différents, dans la mesure où la Guinée était dans une situation considérée par une large majorité de la société civile comme illégale. Le président sortant était dans une situation de troisième mandat considérée anticonstitutionnelle. Et ensuite, la communauté guinéenne ont quand même mené un grand lobby ces derniers jours pour que les sanctions ne soient pas aussi sévères que ceux du Mali, pour nous permettre justement d'aller vers une transition dans la paix, pour réconcilier les Guinéens avec eux-mêmes.
Qu'est-ce que vous pensez des premiers actes des autorités militaires en place?
Le colonel Mamadi Doumbouya me semble être un monsieur très structuré. Nous le voyons dans ses discours qui sont structurés, courts et sur le point. Donc, pour l'instant, il a fait appel sans tarder à la diaspora guinéenne de venir l'assister, des Guinéens de bonne volonté de venir l'assister. Il n'a pas un discours haineux, il n'a pas un discours revanchard, il n'a pas un discours de chasse à la sorcière, ce qui est déjà une bonne chose. La justice fera son travail au moment venu. Les autorités qui sortiront des élections libres et transparentes peut-être se chargeront de ces différents dossiers. Mais en ce qui le concerne, il nous montrait qu'il est là pour une transition. C'est vrai que pour l'instant, ils nous ont pas donné un délai. C'est vrai, c'est un peu trop tôt. Il faudrait impliquer tout le monde, les politiques, la société civile, les Guinéens de l'étranger. J'insiste là-dessus parce qu'ils font quand même partie intégrante des Guinéens.
Qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette junte militaire au pouvoir?
Je pense qu'il ne faut pas trop se précipiter. Il faut qu'on leur donne un minimum de temps pour qu'ils s'organisent. Vous savez, lorsque vous reprenez les rênes d'un pays et que vous n'êtes pas un administrateur public, c'est pas forcément une tâche facile. Et une transition, il faut pas la faire dans la précipitation. Nous attendons une transition dans un délai raisonnable et acceptable par la communauté nationale et internationale pour nous sortir de cette situation, si vous voulez, d'illégalité. Nous voulons quand même retourner dans le concert des nations le plus rapidement possible.
Sheikou Barry, président de l'Association des anciens étudiants guinéens de l'Amérique du Nord, joint à Conakry. Catastrophe naturelle au Burkina Faso. Depuis le mois d'août, les inondations ont fait au moins 9 morts et 87 blessés. Le gouvernement burkinabé parle aussi de plus de 20 000 sinistrés. Bagassi Koura a joint à Ouagadougou Laurence Marshall Ibudo, ministre en charge de la solidarité nationale et de l'action humanitaire.
Au 30 août 2021, nous avons enregistré 20 829 sinistrés issus de 22 communes, 15 provinces et 10 régions de notre pays touchées. Nous avons 87 blessés, 12 graves, dont 12 très graves, et 9 morts.
Est-ce qu'il y a des régions qui sont plus affectées que d'autres?
Absolument. Nous avons la région du centre-nord et la région de l'Est qui ont été beaucoup plus touchées que les autres régions.
Parce qu'il pleut beaucoup plus dans ces régions alors?
Absolument. Et puis, bon, il y a des chantiers aussi, des routes, des nationales qui sont en train d'être construites et tout. Donc, cela a engendré quelques désagréments et des retenues d'eau qui ont quand même affecté les populations vivant autour de ces infrastructures.
Qu'est-ce que vous faites pour aider ces personnes sinistrées? Vous parlez de plus de 20 000.
Mais il est bon de souligner que le gouvernement, à travers mon département, avait fait un communiqué pour demander aux populations dans les zones inondables de quitter les zones inondables sous peine de ne pas être assistées. Parce que nous voyons qu'il y a une anarchie dans l'installation des populations et il y a des zones qui sont automatiquement identifiées comme zones inondables. Donc forcément, quand vous êtes dans ces zones, vous allez être inondé et avoir vraiment une grosse crise. Nous avons demandé, ne serait-ce que temporairement, que ces personnes quittent ces zones pendant ces périodes de pluie diluvienne afin de ne pas être affectées par ces inondations. D'où vraiment l'approche du gouvernement de secourir que ceux qui sont dans les zones non identifiées inondables.
Alors, donc, ces 20 000 personnes, quel genre d'aide elles reçoivent?
Nous avons assisté 3 160 victimes de distribution de vivres. Nous avons distribué des vivres. Nous avons distribué 1580 kits d'articles ménagers essentiels, c'est-à-dire les nattes, les moustiquaires, les savons, dans la commune de Fadangourman. Et nous avons fait des cash transferts pour des familles, à peu près à 135 000 familles dans la zone de Kongoussi, Tougouri et Pikaya, qui étaient des zones très touchées. Et enfin, nous avons aussi équipé les zones de lave-main et de latrine sur les aménagements de Djibo et de Dori au cas où, avec la forte densité des populations déplacées internes là-bas pour prévenir des maladies ou l'assainissement que nous avons mis en place.
Laurence Marchal-Liboudo, ministre burkinabé de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Maroc, le Rassemblement national des indépendants a remporté les législatives avec 87 élus sur les 395 de la future Assemblée. Le parti islamiste modéré au pouvoir depuis 10 ans s'est effondré, passant de 125 sièges à 12. Le président du RNI est favori pour prendre les rênes du gouvernement. Éric Manirakiza a joint à Rabat le journaliste politique à la chaîne 2M, Abdellah Tourabi.
Des résultats et de la dégringolade du parti de la justice et du développement, qui est un parti à référentiel conservateur et islamiste, et qui a dominé la vie politique marocaine pendant les 10 dernières années, depuis 2011 jusqu'à maintenant. Il a été le parti qui a composé les deux gouvernements successifs, il a aussi été le parti majoritaire, mais aussi c'était le parti qui gérait 55% des grandes villes du royaume, c'est-à-dire des villes comme Casablanca, comme Marrakech, comme Tanger. Et donc, le PGD, le Parti de la Justice et du Développement, a perdu quasiment 90% des sièges qu'il détenait. Et voilà, enfin, je pense que c'était la plus grande surprise. Après, c'est une autre surprise, bon, qui est un peu moindre, c'est l'arrivée du Rassemblement national des indépendants, qui était classé cinquième aux dernières élections, arrivé premier avec quand même une distance assez confortable par rapport aux autres partis. Voilà, donc, c'était ça la surprise, qui était liée beaucoup plus au score auquel personne ne s'attendait au Maroc, du parti islamiste du PGD.
Et qu'est-ce qui peut expliquer l'effondrement du PGD?
Je pense qu'il y a différentes raisons. La première, c'est évidemment l'usure du pouvoir, l'usure de la gestion de la chose publique, c'est-à-dire c'est un parti qui dirige le gouvernement depuis 10 ans, qui est majoritaire au Parlement et qui est aussi dans les mairies de grandes villes. Donc il y a une usure et probablement une inadéquation. Il n'y a pas d'adéquation probablement ressentie chez les électeurs marocains entre les promesses du parti, le programme du parti tel qu'il a été annoncé en 2011 et en 2016 et les réalisations. Deuxième élément qui est important à mon avis, c'est que le PGD est allé à ces élections en rang dispersé, c'est-à-dire il y avait pas la cohésion qui marquait, qui a caractérisé le PGD pendant les élections 2011-2016. Ça a beaucoup changé et il y a beaucoup de cadres, de dirigeants du PGD qui n'ont pas soutenu directement le parti. Par exemple, l'ancien chef de gouvernement et l'ancien secrétaire général du PGD, Abdelhamid Kihane, c'est vraiment, il a fait ça d'une manière mais vraiment timide. timide en apportant son soutien au PGD. Il y a d'autres, par exemple l'ancien ministre de la Justice et ministre d'État actuel Mustapha Ramid, qui n'a pas du tout apporté son soutien.
Le Maroc est dirigé par un roi. Est-ce qu'un parti qui gagne les élections a les moyens de mettre en œuvre les promesses électorales?
La constitution de 2011 a apporté des changements qui sont des changements assez considérables. La première chose, c'est que le roi, il nomme le chef du gouvernement à partir du parti qui est arrivé premier aux élections. Deuxième chose, c'est que dans la constitution, bien sûr, il y a des compétences qui ont été élargies, que ce soit au niveau du gouvernement ou que ce soit au niveau du Parlement. Maintenant, la question qui va se poser, c'est au niveau de la pratique, c'est au niveau de la cohérence des gouvernements, c'est au niveau de la cohérence de l'alliance gouvernementale, car ce qu'on avait vu lors des derniers mandats du PGD, on a vu qu'il y avait une incohérence, il y avait des dissensions au sein des partis qui composaient le gouvernement et ça a eu un impact majeur sur le rendement du gouvernement.
Abdellah Tourabi, journaliste politique à la chaîne 2M à Rabat. Après les attentats terroristes du 11 septembre, le pompier new-yorkais Thomas Aliotto a passé des mois à aider à la recherche des restes des victimes à Ground Zero. Il est décédé en décembre 2019 d'une maladie liée à cette activité. Nina Vishneva a rencontré la femme d'Aliotto et ses trois filles pour parler de son histoire. Le récit est de Mouamadou Mfa.
Après les attaques terroristes du 11 septembre, Aliotto a travaillé pendant de longues périodes à Ground Zero à la recherche de dépouilles respirant des substances toxiques qui ont eu des conséquences néfastes sur sa santé.
Mon mari avait des morceaux de verre, de la fumée noire et des choses dans ses poumons. Petit à petit, ça l'a tué.
Les médecins ont prédit qu'il vivrait 10 ans tout au plus. Il a vécu 18 ans.
C'était un combattant, mais le 11 septembre ne l'a jamais quitté. S'il avait à le refaire, il recommencerait.
Les trois filles d'Aliotto ont du mal à se souvenir de cette terrible journée. Amanda avait 10 ans, Ashley 6 ans et Alissa n'avait que 4 ans. Angela Aliotto est allée chercher les deux filles plus âgées à l'école plus tôt que d'habitude ce jour-là, mais elles ne sont pas rentrées chez elles, elles sont allées chez leurs voisins. Plusieurs de leurs voisins étaient également des membres de familles de pompiers.
Toutes les mamans pleuraient en regardant la télévision. Alors une fois que j'ai commencé à regarder la télé, à voir les pompiers, j'ai eu le sentiment que papa était là.
Le matin du 11 septembre, Thomas Aliotto rentrait chez lui après une nuit de travail. Après avoir appris que le premier avion avait heurté la tour, il y est retourné et s'est dirigé directement vers ce qui était le World Trade Center. Il a failli mourir sous la tour nord qui s'effondrait au sol. Il lui a fallu quelques heures pour se libérer des décombres. Et puis, il a perdu la notion du temps. C'était comme un mirage, une tentative désespérée de trouver des survivants au milieu de l'épave, des débris, des poutres métalliques géantes.
Il pensait qu'il était mort. Je me souviens qu'il m'avait dit qu'il n'avait aucun sentiment. Il pensait que quelque chose le mordait. Je ne peux pas expliquer. Il saignait à l'intérieur de ses bottes.
En 2006, en raison des problèmes de santé, Aliotto a dû quitter son emploi. Son seul exutoire était désormais sa famille.
Nous vivions un peu différemment des autres enfants autour de nous. Ils ne comprenaient pas vraiment. Vous savez, notre père est entré à la maison, les leurs aussi, tout simplement, mais notre père n'est pas vraiment rentré à la maison tel qu'il était. C'était une personne complètement différente.
Ashley et Amanda sont devenues enseignantes comme leur mère. Aliotto a tenté de convaincre Alissa, la plus jeune des trois, de faire de même. Mais elle a choisi une carrière dans la police et cela le rendait extrêmement fier. Juste avant d'obtenir son diplôme de l'académie, Alissa et certains de ses amis se sont rendus au mémorial et musée du 11 septembre, une tradition que les policiers de New York observent.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, Raga FM 90.5 Mbujimayi, 93.5 FM Lomé, Clédou FM 90.5 Sikasso Mali et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.